Bonjour, 7e opus de À bâton rompu. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Marie Perrier, photographe, réalisateur et auteur, qui donc est l'invité de cette émission, dans laquelle bien nous allons évidemment évoquer son parcours et notamment sa longue carrière aux côtés des vedettes des années 60, puisque Jean-Marie Perrier s'est fait connaître par ses photographies consacrées à l'époque des yéyés. Jean-Marie Perrier, bonjour.
Bonjour.
Donc aujourd'hui, bien vous êtes Aveyronnais, vous êtes aussi un fervent défenseur du patrimoine et de l'art de vivre de l'Aveyron. Qu'est-ce qui vous a conduit à venir vous installer chez nous, chez vous maintenant?
C'est-à-dire que je suis descendu tout droit de Paris, parce que j'en avais vraiment ras-le-bol de l'esprit parisien et de cette espèce de mépris de la province et puis le Paris que je connaissais n'existe plus. Je trouve ça invivable personnellement. Il y a trop d'incivilité, d'agressivité. Tous les endroits dans lesquels j'avais l'habitude d'aller sont devenus soit des musées, soit ils sont mythiques. Vous avez remarqué, tout est mythique aujourd'hui. On vient d'acheter une brosse à dents, les mecs vous disent elle est mythique, la brosse à dents. Donc je me suis dit, il me reste quand même 15 printemps à vivre, parce que je vais avoir 80 l'année prochaine, donc ça veut dire que j'ai 15 printemps d'opérationnel. Après on peut vivre, mais enfin je suis pas sûr que ce soit souhaitable. Donc il faut que j'aille dans un endroit d'abord, qui soit loin de Paris. Difficile d'accès de préférence, parce que ça, les officiels aiment pas quand je dis ça, mais en réalité c'est un très gros avantage pour l'Aveyron.
En fait, vous êtes vraiment fervent défenseur de l'enclavement
et pas du désenclavement. Oui, bien sûr, parce que c'est la seule façon d'avoir là, cette campagne magnifique ressemble à celle que je connaissais quand j'étais petit. On peut faire 15 kilomètres sans voir une maison dans l'Aveyron. C'est très, très rare. Dès que le TGV arrive, les crétins arrivent avec. Ça construit n'importe quoi. Il y a des parkings souterrains et tout. C'est une horreur. Les seuls endroits dans lesquels il faut aller si on veut être peinard, c'est des endroits qui sont un peu plus difficiles, effectivement, d'accès. Et l'Aveyron, c'est sa plus grande chance sur l'avenir. Vous verrez. Parce qu'aujourd'hui, ils râlent, parce qu'ils disent « oui, mais comment, alors, pourquoi pas nous ?» Oui, écoutez, n'oubliez pas que dans quelques années, vous verrez, quand je serai plus là, vous
on direz « putain,
il avait raison. »
Ce qu'avait dit Jean-Marie Perrier.
Oui.
Et vous avez découvert ce département de quelle façon? Qu'est-ce qui vous a en fait conduit en Aveyron plus que dans le Lot ou dans le Cantal ou la Lozère, puisqu'on est sur des départements à peu près...
D'abord parce qu'au départ, moi je voulais descendre dans le sud, je voulais être au soleil, dans la campagne, surtout pas en bord de mer, parce que j'ai hors de l'esprit de la Côte d'Azur, et avec des gens normaux, donc c'est forcément la campagne. Donc je suis descendu tout droit, c'est pas plus compliqué que ça. Je me suis arrêté d'ailleurs à Figeac au départ, mais je préférais l'Aveyron parce que l'Aveyron, d'abord j'en avais parlé avec Dutronc quand on était en tournée. C'est ma chienne qui fait ça là.
Ah, j'y crois.
Je peux pas arrêter là un peu. Avec Dutronc en tournée, on avait parlé de ça. On disait, tiens, la vraie campagne, la belle campagne, il m'a dit, tu devrais aller voir en Aveyron. Donc le hasard a fait que j'étais là. Donc je me suis arrêté là. Et la première maison qu'on m'a montrée, boum, je l'ai achetée.
Et Dutronc connaissait l'Aveyron par sa tante, c'est ça, qui était
pas du tout.
Mère supérieure à Montaigne.
Oui, mais ça, je le savais pas. Ouais. On en avait jamais parlé. Et en plus de ça, je sais même pas s'il y pensait. Non, c'est parce que c'était quand on était en tournée dans les années 70. 70. Voilà, il les connaissait comme ça.
Parce que l'Aveyron, vous connaissez depuis une quinzaine d'années. Enfin, vous y êtes installé depuis une quinzaine d'années.
25, vous êtes gentil.
25 ans. Oui. 25 ans. À Villeneuve d'Aveyron, c'est ça, où vous avez
absolument.
Aujourd'hui un espace qui est dédié à vos photographies, la maison de la photo à Villeneuve d'Aveyron.
Oui, il faut bien le dire d'ailleurs, parce que ce qui est hallucinant, c'est que ça fait 5 ans qu'on fait ça, il y a encore des mecs à 15 km qui disent « Ah bon, vous faites une exposition ?» Putain, c'est lent.
Voilà, sachez que donc il y a une maison de la photo où l'exposition est permanente et ouverte au public tout au long de l'année ou presque avec une coupure. Bon, très bien. On ne va pas forcément évoquer les différentes péripéties qui ont entouré cette maison.
Non, mais c'est un bel endroit. Moi, je suis content d'avoir pu faire ça pour remercier les Aveyronnais et surtout les gens de Villeneuve qui m'ont quand même accepté. Hein. Moi, j'étais parisien. Bon, alors un parisien, déjà, c'est suspect. Mais en plus, s'il montre sa tête à la télé, je peux vous dire que c'est carrément l'ennemi. Donc, c'est assez compliqué au départ. Mais bon, voilà, ils m'ont accepté. Donc, voilà, je me suis dit, ben, je vais mettre des photographies là, dans cet endroit qui était vide, parce qu'il est magnifique, c'est une bastide du XIIIe.
C'était l'ancien musée de Madame Brisebois. Hein,
qui était, absolument, absolument. Qui était d'ailleurs très, très, très beau. Mais bon, en même temps, on ne peut pas dire qu'ils aient vraiment été aidés, ceux-là. Hein. Donc, lui, il a arrêté, elle a arrêté plutôt, et cet endroit était vide. Donc, voilà, bon, le maire, Pierre Coste, a réussi à obtenir des gens de la région qu'on puisse le faire, parce que tout le monde était contre, hein, comme d'habitude. Bon, ça, c'est classique. Dès qu'on va faire quelque chose de nouveau, boum, tout le monde est contre. Mais ça, c'est partout en France. Hein. Les gens, ils aiment bien être contre en France.
Bah, ceci dit, l'Aveyron, quand même, alors aujourd'hui, se sert assez régulièrement de votre image, hein, pour véhiculer, par rapport à sa...
Non, mais c'est normal, parce que de toute façon, je suis Aveyronnais de choix. Et dès que je peux, j'en parle à la télé, à la radio, dans les journaux et tout. Parce que
vous êtes devenu un très bon ambassadeur du département.
Oui, mais enfin, c'est la moindre des choses. Non, mais en plus, je le pense vraiment. Hein. Je le pense vraiment. Je trouve que c'est vraiment un endroit très, très... Et puis j'aime bien... Il y a des gens que j'aime bien parce qu'ils sont, ils sont pas prétentieux. Je connais plein de gens qui ont pas grand-chose, hein, vraiment. Et les mecs, ils râlent pas, ils se plaignent pas... Bon, c'est rare, hein, en France, parce que ça râle pas mal.
Surtout, vu le contexte.
Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, je suis terrorisé de voir dans quel état est notre pauvre pays. C'est vraiment dommage, parce que c'est vraiment un pays extraordinaire.
Vous qui voyagez, justement, beaucoup...
Moi, j'ai été partout, à part en Chine, et je sais plus, un autre pays, parce que j'avais pas envie d'y aller. Mais j'ai vraiment été partout. J'ai vécu aussi 10 ans en Amérique. C'est vraiment un pays extraordinaire qu'on a. D'abord, tout le bord de mer qui est, bon, bousillé évidemment par les constructions, mais quand même, c'est le bord de mer incroyablement long. Et puis, tous les 100 kilomètres, le paysage est différent. C'est insensé.
Et dans ce pays extraordinaire, l'endroit que vous trouvez le plus beau du monde, c'est Villeneuve d'Aveyron, alors on va dire pratiquement, quoi. Pour vous y habiller.
Non, il y a plein d'endroits très beaux. Il y a plein d'endroits très beaux, partout. Mais bon, faut bien se mettre quelque part. Donc voilà, moi je me suis mis là parce que c'est un petit village, pas prétentieux, dans un environnement que je trouve absolument extraordinaire.
Voilà, c'était l'authenticité qui veut que vous recherchiez.
Oui, vraiment.
À la fois dans les rapports humains et puis dans la manière de vivre.
Oui, quoi. Bon, même si je vois pas grand monde, parce que c'est vrai que je suis quand même assez solitaire. Hein. Bon, parce que je suis pas à Villeneuve.
Oui, voilà,
dans la campagne.
Vous partagez entre votre lieu de résidence qui est Villeneuve et les lieux où vous exposez. Vous étiez dernièrement dans une grande exposition à l'Arche
de la Paris,
oui,
à Côte d'Or. En fait, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que l'exposition sur le toit de la Grande Arche, sous le toit de la Grande Arche, c'est un endroit extraordinaire. Parce que c'est très beau, hein, la Grande Arche. Mais ils m'ont filé quand même 1200 mètres carrés, donc là, il y a vraiment de quoi faire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, heureusement, c'est un endroit dans lequel il y a 800 000 personnes par jour qui travaillent là. Mais le samedi, il n'y a personne. Parce que pour les gens de Paris, la Défense, c'est plus loin que l'Aveyron. Hein. Alors les mecs, ils n'y vont pas. C'est incroyable. Donc c'était plein de gens qui venaient pendant la semaine.
Et le week-end, personne.
Et le week-end, très peu de gens. Mais
on a beaucoup parlé de cette exposition, hein, vraiment, puisque bon, elle revenait sur votre carrière, et donc là, pour le coup, vous étiez dans votre rôle de photographe, hein, puisque vous êtes un petit peu dans les médias nationaux, estampillé photographe, c'est-à-dire que bon.
Oui, mais ça, c'est les médias. En réalité, bon, j'ai une étiquette. Là, il y a marqué sur le front, il y a marqué photographe années 60, et je peux, quoi que je fasse, les mecs, ils me parlent que de ça. Hein. Bon, très bien, c'est mon karma. Je me suis habitué. J'ai fait plein d'autres choses. Hein.
Tout à fait, notamment.
Tous les 10 ans, moi.
Les livres que vous avez écrits, dont d'ailleurs l'un des derniers, Loin du paradis, est absolument remarquable, à la fois d'humour et de. enfin, c'est un humour graissant, hein, par rapport à.
Ah oui, mais rassurez-vous, il n'a intéressé personne. Là, je peux vous dire.
C'est
non,
faux,
je
ça m'a intéressé.
Non, mais je le savais. D'ailleurs, parce que quand c'est la première fois de ma vie que quand le directeur des éditions des éditions m'a proposé de me donner une avance. Je lui ai dit non, j'en veux pas parce que ça marchera pas celui-là. Non, mais parce que je suis arrivé, Dieu merci, à un âge où je peux faire des choses pour le plaisir de les faire. Mmh. Hein. Je me fous complètement de la vie des gens, des critiques, des esthètes, des spécialistes de la culture et autres ayatollahs du bon goût. Je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir toujours un projet. Parce que quand on arrive à mon âge, il faut avoir un projet tout le temps. Sans ça, on glisse et c'est le trou très vite. Donc, ce qui est formidable dans le fait d'écrire, quand on aime ça, moi j'ai la chance d'aimer ça. Bon, c'est d'avoir toujours un projet. Bon, après, ça marche pas. Bon, ça, c'est autre chose. Mais je vis pas de ça. J'ai la chance de pas vivre de ça. Parce que quand on est écrivain et qu'on a que ça pour vivre, oui, là, c'est la panique, hein. Je comprends. Mais moi, bon, c'est comme un peu tout ce que j'ai fait dans ma vie. De toute façon, je suis un dilettante. Hein. J'ai changé de vie, de métier, de pays, de femme, tout ça, tous les 10 ans. Bon, donc, rien n'est sérieux. Et c'est une grande chance que j'ai eue. Parce que finalement, j'ai réfléchi que bon, on connaît l'histoire. Bon, quand j'ai appris à 16 ans que mon père n'était pas mon père, mon père François Perrier, le merveilleux acteur. Bon, j'ai appris que mon géniteur était noir, ce qui n'a aucune importance, mais il était musicien. Et moi, j'étais musicien. Et c'était ça ma vie. Bon, parce que là, oui, effectivement, la seconde où j'ai su que j'étais musicien et que je savais pas que j'avais donc un géniteur, et je suis allé le voir sur scène, et là j'ai compris que bon, effectivement, d'où ça me venait, quoi. Puis j'ai compris aussi pourquoi moi en 3 jours je bronzais en vacances alors que mon frère et ma sœur mettaient 3 semaines. Bon, ouais. Donc j'ai donc décidé d'arrêter ce jour-là d'être musicien, alors que c'était vraiment ma vie avec ça qui comptait, pour ressembler à mon père. Il m'a adopté quand je suis né, moi je l'ai adopté à 16 ans. Et depuis, je fais absolument n'importe quoi, moi. J'ai fait tout ce qui me passe par la tête, tout ce qu'on m'a proposé, au hasard. C'est par hasard que j'ai fait de la photographie, grâce à Daniel Philippaki, que grâce à lui, donc, je me retrouve avec un mec qui apportait le jazz en France avec une émission à l'époque, qui s'appelait « Pour ceux qui aiment le jazz ». Et puis, il avait aussi un journal, Jazz Magazine. Et moi, à 16 ans, hop, il me balance un appareil photo. Il me dit, tu pars en tournée avec Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie et Miles
Davis. Vos idoles de l'époque. Hein.
C'est extraordinaire. C'est-à-dire des gens dont je connaissais le travail par cœur. Parce que c'était ma vie. Et après ça, dans les années 60, boum, on fait Salut les copains. Et j'en prends encore pour 12 ans avec tous les mecs du rock et de la pop. C'est-à-dire que à la seconde où j'ai fermé mon piano... Vous avez passé à 10 centimètres, je suis resté à 10 centimètres des plus grands musiciens de la planète.
Voilà, bon, donc déjà un premier pas dans la photographie de manière tout à fait d'abord imprévue et puis une immersion totale dans le monde des grands de la musique de l'époque. En tout cas, là c'était le jazz.
Oui, mais bon, c'est parce que de toute façon, moi je viens d'une famille d'artistes. Hein, toute ma vie, j'ai vu des gens extraordinaires. Voilà,
pour rappeler à nos auditeurs, votre père François Perrier, votre mère Jacqueline Porel, une actrice aussi, et qui était également la fille de Réjeanne.
Petite fille de Réjeanne.
Oui. Donc
Réjeanne, c'est la plus grande actrice du début du siècle avec Sarah Bernhardt. Bon.
Voilà. Donc vous avez une famille baigné dans le milieu.
Oui, et puis dans la maison qu'on habitait à Neuilly, qui donnait sur les bords de la Seine. Bon, ben, le monde entier venait, là. Tous les soirs, il y avait des dîners avec tous les acteurs français, étrangers. Il y avait Péniche de Cocteau et Jean Marais, j'allais jouer dessus. Bon, donc, c'est quand même très particulier. Mais c'est peut-être ça qui m'a donné aussi la chance d'avoir des rapports formidables avec tous ces jeunes chanteurs du début des années 60. Parce qu'en fait, j'en savais beaucoup plus qu'eux sur ce qu'allait leur arriver. Parce que moi, j'avais vu les coulisses, hein. Je connaissais les hantises, les peurs, les gens qui vous racontent des salades, tous les types qui grouillent autour de ça, je le connais par cœur.
On va revenir sur ce moment crucial de votre
carrière. Ah bon, bah, si vous coupez dans ma lancée. Alors,
non, non, mais on va marquer une première pause musicale parce qu'on vous a demandé de nous suggérer quelques titres qui évoquent pour vous, des moments particuliers de votre carrière ou de votre vie en tout cas.
J'ai pas de carrière.
C'est vous qui le dites.
Non, non, il n'y a pas de carrière.
Vous en avez changé tous les 10 ans, certes, mais elles ont été brillantes. Et en tout cas, elles ont marqué la pop culture, puisque vous faites aujourd'hui partie des figures de la pop culture française. Hein.
Ça sent le sapin, ça.
Non, pas du tout. On écoute pour la première pause musicale Go On Your Way de Fleetwood Mac.
Oui, oui.
Vous êtes sur scène. Non, mais je te coupe. Cette musique-là, tu vois, ça, c'est la meilleure période. Ça représente la meilleure période que j'ai vécue dans les années 60-70. Ça, c'est 70, d'ailleurs. Mais ça, c'était vraiment la période la mieux. Où tout était possible, où les mecs déconnaient à mort. C'est vraiment une période extraordinaire. Enfin, ce dont je me souviens, parce que j'ai quand même pas beaucoup de mémoire, contrairement à ce qu'on croit. La photo, ça aide beaucoup pour ça, parce que bon, grâce aux photos, Dieu merci. Mais en réalité, si j'avais eu l'intelligence de tenir un journal, c'est-à-dire ce que tous les mômes devraient faire, ça, si je voyais le ministre de l'éducation, c'est la seule chose que je lui dirais, s'il vous plaît, faites en sorte que les enfants tiennent un journal. Si j'avais tenu un journal, mais j'aurais 20 livres d'avance. Et on oublie tout. On oublie tout. Grâce aux photos, j'ai quelques
Mais alors ces photos quand même qui sont extraordinaires. Certaines sont passées, on va dire, dans le patrimoine de collectif de notre époque. Vous aviez conscience au moment où vous les faisiez de participer à quand même à des tranches d'histoire. Cette fameuse photo qui est celle qui est passée partout, la photo des années 60, de toutes les idoles des années 60. Bon, voilà, c'était quand même. Aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait refaire une photo comme ça?
Non, mais c'est pas intéressant, on s'en fout. Non, évidemment qu'on pourrait pas. Parce que aujourd'hui, tout est devenu sérieux, les mecs ont peur de tout. Nous, on avait peur de rien, parce qu'on était un peu inconscients. Et puis que c'était nouveau, tous ces gens, ils étaient jeunes et beaux. Et puis, ils pensaient qu'à l'avenir, ils savaient pas que c'est. Enfin, ils pensaient qu'à l'avenir. En même temps, on pensait tous qu'on serait mort à 30 ans, hein, curieusement. Mais. On n'avait pas peur, et c'est la très grande différence avec aujourd'hui, où tout le monde a peur. Tout le monde a peur.
Bah, le contexte est différent aussi, sur le plan de la société.
Non, le vrai problème, c'est qu'il y a trop de monde. Parce que quand je suis né, moi, on était 1,5 milliard sur Terre. Aujourd'hui, on est 8, et à la fin du siècle, vous serez 10. C'est cuit, ça peut pas marcher. C'est ça le vrai problème. Et c'est pour ça que tous les gens sont tellement nerveux. Il y a trop de monde. Paris, c'était la plus belle ville du monde. C'est un cauchemar aujourd'hui à vivre. Ils en arrivent maintenant à se bagarrer avec des patinettes. Je ne sais pas si vous voyez, on en est quand même. Non, mais c'est vrai, c'est affreux. C'est très triste. Et je trouve que c'est honteux de voir partout, dans tous les pays, on ne parle que de la croissance. Alors que la seule façon de s'en sortir, c'est la décroissance.
La décroissance, oui.
Il faut arrêter de faire des gosses aussi. Non, mais il faut limiter. Ça, c'est les religions. Tiens, voilà un truc important.
les religions.
Non, les religions, je suis désolé. Les religions, tous les ennuis de la planète nous viennent des religions. Regarde, les guerres, les problèmes, partout, c'est d'abord religieux. Bon, en plus de ça, ces gens dont l'utilité, je la reconnais, l'utilité, c'est très bien de donner, bon, de donner une route à des gens qui n'ont pas de chemin à suivre. Très bien, parfait. Mais enfin, quand je pense que le pape, c'est quand même un type formidable, le pape, il a un pouvoir extraordinaire. Il interdit aux femmes en Afrique la contraception. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. C'est honteux.
Ben, ça veut dire des centaines de milliers de gamins qui ne sont pas forcément effectivement ni éduqués, ni nourris, ni de bonne
condition. C'est de l'assassinat. Je trouve ça tragique et je trouve vraiment très triste. Bon, moi, c'est fini, je m'en fous. De toute façon, hein. Ça va, mon avenir, il est derrière moi. J'ai des gosses, j'ai 3 enfants. Bon, ils sont grands maintenant. Mais qu'est-ce qu'on va leur laisser, là? Attendez, c'est effrayant. Vous vous rendez compte? Je trouve ça. Moi, je suis vraiment désespéré par ça.
Vous êtes amer par rapport, justement, alors, au fait que vous ayez. L'expérience que vous avez, le bagage. Vous avez vu des pays à travers le monde. Vous avez aussi une vie particulière.
Oui, mais ça, c'est le passé. Bon,
oui, mais alors, justement, ce passé vous permet de jeter un regard un petit peu, quand même, désabusé sur le présent. On sent un peu.
Oui et non, parce qu'en réalité, l'expérience. Ça veut rien dire du tout, parce qu'en fait, on fait toute sa vie les mêmes conneries. Donc, j'y crois pas une seconde. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis toujours.
C'est une lanterne que l'on porte qui éclaire le chemin parcouru, quoi. C'est ce qu'on dit.
Ouais. Sur un cendrier dans un hôtel, t'as vu ça.
Sûrement.
Non, mais ça sert à rien. C'est vrai. L'expérience. Non, mais d'ailleurs, tous les mômes que je vois, que je rencontre et qui me demandent des conseils, je leur dis toujours, écoutez, d'abord, faites ce que vous avez dans la tête. Si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, faites-le. N'écoutez personne. N'écoutez pas les vieux. Parce que ça n'a aucun intérêt. Hein, aucun. D'abord, tous ces vieux qui sont là à dire, à vouloir essayer de rester jeune. Rester jeune, c'est une idée de vieux. Hein. Je n'ai jamais vu un jeune me dire, je veux rester jeune, moi. Bon.
Ben, c'est le sujet de votre
livre. Ah, mon livre, oui. Ouais. Ah oui, c'était très drôle, ça.
Oui, alors très drôle et féroce, parce que là, vous avez démonté tous les clichés sur la
vieillesse. Oui, parce que j'en ai marre qu'on dise aux gens des choses fausses, uniquement parce qu'en fait, au fond, ils n'aiment qu'on leur raconte des histoires. Les gens, c'est comme des enfants, ils veulent qu'on leur raconte toujours les mêmes choses. toujours les mêmes histoires. Et puis, ils veulent qu'on leur mente. Parce que quand on explique à des gens, à partir de 70 ans, vous verrez, c'est la plus belle partie de la vie. Ah, vous verrez,
je sais qu'il y a quelque chose qui vous énerve particulièrement, c'est la fameuse, la vie commence à 60 ans, quoi.
Mais c'est absolument faux. La vie commence pas du tout à 60 ans. Ils vous racontent, oui, vous voyez, vous pouvez tomber fou d'amour à 75 ans. C'est vrai pour certains. Vous pouvez baiser à 92. C'est pas vrai. Bon, tout ça, c'est des bêtises. Alors qu'il suffit d'aller voir dans les EHPAD, c'est l'horreur d'être vieux. Bon, moi, j'aime pas ça. Alors, j'ai le droit de le dire. Mais vous savez que c'est très mal vu. C'est-à-dire, mon livre, ça a choqué des gens. Mais pourquoi je raconterais des salades à cette jeune fille, là, dans le bureau, dans notre studio? Il y a une jeune fille, là. Pourquoi je vais lui raconter que la vie, c'est bien quand on a 70 ans? C'est très dangereux de dire ça à des mômes, parce que ça veut dire qu'ils ont le temps. Mais ils n'ont pas le temps du tout, justement. Faut tout de suite vivre les trucs, les mecs, parce qu'après, ça glisse et bonjour le trou. Donc, il faut absolument pas leur dire des bêtises pareilles. Donc oui, ça m'énerve.
Donc, il faut brûler la chandelle, parler debout.
Évidemment.
Quand on est jeune, aucun intérêt.
Mais évidemment. Et puis, il faut changer de vie. Non, mais c'est le drame de la France. Ça, c'est un vrai drame de la France. Parce que j'ai vécu aux États-Unis. Bon, pour moi, jamais plus je veux y aller. Parce que c'est très bien dans les films, hein, l'Amérique. Mais à vivre, c'est vraiment rude, hein. Parce que ici, ça râle, parce que, les hôpitaux, tout ça. Mais les hôpitaux, si on y va, ils vous virent pas. Là-bas,
hein. On vous laisse crever sur le...
Tu n'as pas la carte de crédit, de l'air. Bon. Donc, je sais plus ce que je disais. C'était vachement bien pour toi.
Non, non, mais vous avez vécu aux États-Unis. Et les États-Unis, c'est pas,
Oui, non, mais c'est pas ça. C'est, de quoi on parlait avant?
Bah, du fait que les gens ici râlent par rapport à la vie et à la manière dont on vit en France et que, à l'étranger, ben, c'est pas mieux.
Ah, c'est terrible, tu vois, encore ça, c'est affreux d'être vieux. T'oublies ce que t'allais dire. Tout le temps, j'oublie ce que j'allais dire.
C'est pas bien grave.
Non, si, ce qui est très grave, c'est surtout cette impression d'avoir déjà vu le film, d'avoir vécu les choses. Et c'est ça qui est terrible. En plus, Dieu merci, j'ai pas de mémoire. Je crois que c'est peut-être finalement une chance. Non, mais c'est vrai. Phrase de Robin Williams, qui est formidable, cette phrase de l'acteur américain Robin Williams, par rapport aux années 60, il disait, si vous vous souvenez des années 60,
c'est que
vous ne les avez pas vécues.
Eh oui, avec les fumées diverses et variées.
Puis en plus, ça allait vite, on n'était pas... C'était bien.
C'était bien, mais alors aujourd'hui, en quoi ça pourrait être moins bien, justement? Alors vous avez parlé...
Ça l'est déjà. Mais oui, ça l'est déjà. Ça l'est déjà parce que je trouve terrifiant de voir que, alors que ce pays est le plus beau du monde, il y a que des gens malheureux. Mais ce qui me terrifie vraiment aujourd'hui, c'est de voir que la France et beaucoup de pays, surtout en Occident, sont dirigés par Facebook, c'est-à-dire par Internet. Facebook, c'est l'horreur. C'est bien simple. Parce que là-dedans, il y a toutes les bêtises du monde, toute la haine du monde, alors que c'était un objet au départ, Internet, qui avait été inventé pour rapprocher les gens, ça ne fait que les séparer. C'est le royaume de la délation. Hein, tous les corbeaux de la Terre, les crétins qui balancent des fausses nouvelles, ils sont tous là. Je peux te dire que pendant la guerre de 40, s'il y avait eu Facebook, il n'y aurait plus un juif sur la Terre. Hein. Terminé, mon pote. C'est effrayant. Ça me terrifie.
Et que faire alors pour contrôler?
Mais c'est très compliqué parce qu'on est tous fautifs. C'est comme les gens qui disent « Ah oui, mais ça c'est la faute des médias ». Mais attends, les médias, 80% des médias en France sont des c'est du business, les médias. BFM TV, tout le monde dit ah oui, c'est honteux, oui d'accord, mais BFM TV, c'est une histoire commerciale, oui. Hein, ils ont de la publicité. Donc qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils vous balancent ce que vous voulez voir, c'est-à-dire les mauvaises nouvelles, parce que c'est bien connu que dans la presse, les bonnes nouvelles, ça intéresse personne, il y a que les mauvaises qui les intéressent.
Mais les trains qui arrivent à l'heure.
Résultat, effectivement, par exemple, depuis qu'il y a les gilets jaunes, ils ont jamais fait autant de pognon, les mecs de BFM. Ben, évidemment qu'ils continuent. Il se passe un truc n'importe où en France, bien sûr, ils soufflent dessus, c'est normal. Mais c'est notre faute à nous. On n'a qu'à pas lire des conneries. Mm-hmm. Non mais attends, franchement, on n'est pas obligé. Et je trouve terrible de voir qu'on dit, oui, c'est la faute des médias. Non, c'est comme les mecs qui disent, je lis jamais Voici, hein, à part parfois de temps en temps chez le dentiste. Putain, ça fait un nombre de mecs qui vont chez le dentiste par semaine, dis donc.
Eh oui, puisque c'est pratiquement aujourd'hui le plus gros tirage, c'est ça. C'est aujourd'hui. Donc voilà,
on
donne aux gens ce qu'ils veulent.
Oui, et on est paresseux parce qu'on regarde. Parce que moi aussi je regarde. Hein. On est paresseux, on va au plus simple. Pourtant, il ne faut pas s'étonner que les fausses nouvelles partent dans tous les sens. Non, Internet, c'est effrayant, surtout que les gosses ne tombent pas là-dessus. Hein. Parce que là, c'est
surtout que ça pose un vrai problème au niveau notamment de la vérification des informations et tout ça. On l'a vu, on voit à peu près tout et n'importe quoi là-dessus. Alors, comment se prémunir ? C'est pas l'objet de la truc. On est là pour parler un petit peu du monde qui nous environne, mais surtout du fait que vous avez connu une époque qui aujourd'hui reste dans l'imaginaire de ceux qui l'ont vécu comme étant les jours heureux. Quoi, le temps béni à l'époque.
Oui, en même temps, il ne faut pas non plus exagérer, il y avait quand même les femmes ont eu droit au carnet de chèques, les femmes mariées, qu'en 66. Hein. Avant, elles n'avaient pas le droit d'y toucher au pognon. Bon, il y avait aussi des mecs dans la merde. Bon, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'il y avait moins de monde. Hein. Mais... Bon, alors nous, bien sûr, dans les années 60, on arrive, nos parents, ils ont connu la guerre. Hein. Donc, puis les grands-parents et les parents, ils ont connu la guerre. Donc, eux, ce qu'ils veulent, c'est souffler. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est être peinards. Donc, ils ont organisé une vie. Nous, à 18-20, on voit dans la rue, je vois des Guy Mollet un peu tristes. Et puis, au cinéma, je vois James Dean et Marlon Brando sur écran en cinémascope. Nous, on veut être là-bas. C'est pour ça qu'il y avait l'obsession de l'Amérique. Voilà. Parce que l'Amérique représentait l'avenir à l'époque. C'était le futur possible. C'était le rêve. Bon, depuis, j'ai été y vivre 10 ans. Et j'ai compris que ce que j'aimais, c'était pas l'Amérique, c'est les films américains.
Très bien. Jean-Marie, on va écouter maintenant une chanson que vous nous avez proposée, c'est Première rencontre, hein, Françoise Hardy. Alors pourquoi magnifique. Cette chanson, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, outre le fait que Françoise Hardy, c'est quand même une femme qui a beaucoup compté dans votre vie.
Oui, c'était la plus belle et elle ne le savait pas. Donc ça, c'est d'un charme absolument infernal. Et c'est une fille qui, tous les jours de sa vie, a écrit tous les jours. Alors elle l'a tenu, son journal. Bon, elle l'a mis dans des chansons. Donc c'est souvent triste parce que finalement, c'est quelqu'un qui a beaucoup espéré. Et au fond, les hommes qu'elle a rencontrés n'ont peut-être pas forcément été à la hauteur, moi compris. Bon, et c'est dommage parce que c'est vraiment une femme extraordinairement intègre et drôle aussi. Très drôle, hein, contrairement à ce qu'on croit. Elle peut être assez acerbe aussi. Mais voilà, c'est magnifique les chansons qu'elle a écrites. Et elle en a écrit, je sais pas, au moins 300, hein.
On écoute Françoise Hardy dans Première rencontre.
Je restais seule dans ma chambre, rêvant de celui qui viendrait me sortir un jour de l'enfance et avec qui je partirais. Décrire
Voilà, nous venons d'écouter Françoise Hardy dans un merveilleux morceau intitulé « Première rencontre ». Cette femme a beaucoup compté dans votre vie, mais vous, comme beaucoup d'autres, sont aussi attachés à votre
existence. J'ai été très gâté, oui.
vous avez quand même effectivement eu la chance de connaître des femmes remarquables, tant au niveau artistique que, qu'on va dire, au niveau physique. Si vous aviez à garder de toute cette période, justement, une rencontre, qu'elle soit masculine ou féminine, ça serait laquelle? Parce qu'on vous a souvent associé à Johnny, Sylvie, Françoise, Hardy. Mais qui est un peu la personnalité, la rencontre qui vous a vraiment changé un petit peu dans cette période-là?
Bah, il y a Dutronc et Mick Jagger, en fait. Voilà. Bon, c'est vraiment, c'est pas la même phase de la même pièce, hein. mais Jacques, c'était formidable parce que lui était exactement le contraire de ces mecs qui se rêvaient américains, parce que lui, il arrive avec son nom Dutronc. D'abord, les autres sont tous américanisés, il est en cravate. Ça, et il est d'une insolence qui dépasse l'entendement. C'était extraordinaire ce qu'il était insolent et drôle et...
Vous parliez de dilettantisme, mais alors Dutronc, est-ce que ça n'était pas un autre de dilettante, alors, dans le genre?
Moins que moi, parce qu'en réalité, il travaille, hein. Il a beaucoup travaillé sur ses
airs. Mais il a quand
même
l'image du, on va dire, du...
Mais ça, c'est parce que c'est un acteur. C'est pour ça que j'ai voulu faire du cinéma avec lui, d'ailleurs. Parce que c'est un type qui était capable absolument de tout et avec un humour fou. Moi, j'en étais absolument dingue. Et Mick Jagger, parce que Mick Jagger, d'abord, il ressemblait à Françoise. Bon, déjà, c'est un avantage.
Mais il n'en était et pas amoureux, puis, d'ailleurs.
Ça, c'est des conneries dans les journaux, ça. Non, il se connaissait, mais bon, il s'est vaguement. Bon, lui, évidemment, il aurait aimé la voir comme ça pour la mettre faire une croix sur la crosse, mais bon. Non, mais j'avais fait un dîner d'ailleurs où je les avais, parce qu'ils voulaient tous la rencontrer, hein, Françoise, les Beatles, Bob Dylan, tous les anglo-saxons voulaient rencontrer Françoise et Bardot d'ailleurs. Donc j'avais fait un dîner, je me souviens, avec Françoise et les Stones, et après, quand on est rentré, elle m'avait dit, putain, ton pote, il est gentil, il m'a fait du pied pendant tout le dîner. Non, mais Mick Jagger, c'était extraordinaire parce que lui aussi, c'était une insolence. Insensé. Ces types-là, ils ont inventé une façon de vivre. Complètement. Personne ne vivait comme ça. Si, les gens du jazz un peu. Les gens du jazz, ils cassaient parfois de temps en temps une chambre d'hôtel. Mais seulement d'abord, c'était des gens qui étaient plus âgés, les musiciens de jazz, et ils n'avaient pas d'argent à l'époque. Tandis que c'était des gamins, ils étaient bourrés de pognon. Alors, je peux te dire que ça valsait dur, hein. Donc, ils ont vraiment inventé une façon de vivre. Et je me souviens très bien que quand j'étais avec eux, c'était à Houston, je crois, et quand j'ai vu la femme du shérif de Houston, du patron de la police, je sais plus comment ça s'appelait, qui voulait absolument avoir un autographe de Mick Jagger, et qu'il y avait des flics qui faisaient une haie pour qu'ils arrivent jusqu'aux coulisses, qu'il y avait par terre, je me souviens, il y avait comment il s'appelait, Keith Richards, qui était en train de dormir par terre torse nu. Il y avait Stevie Wonder qui était en train de rouler un joint dans le journal. Et il y avait Mick qui était assis à côté d'une montagne de cocaïne en train de lire un journal. Bon.
Et le patron de la police qui arrive sur ses...
Il arrive là, les flics, ils étaient, mais en eau. Ils étaient, mais vous regardez ça. Or, ouais. Quand j'ai vu que cette dame, toute tremblotante, lui demandait un autographe qu'il lui a donné comme ça, très gentiment, et pour son mari, ces types-là, c'était des petits bandits. Ils auraient dû être en tôle. Hein. Ils se tapaient des gamines, ils se droguaient, ils envoyaient la terre entière se faire voir. Donc, si vous voulez, c'était très... Là, je me suis dit, il se passe vraiment un truc.
Ils ont inventé une façon de vivre, mais aussi une façon de mourir, parce que combien de jeunes artistes de l'époque sont tombés au champ d'honneur, on va dire, dans ce contexte-là.
Parce oui, bien sûr, c'est vrai.
On connaît votre combat contre la drogue, justement.
Ça, vraiment... J'ai toujours détesté les gens qui font l'apologie de la drogue à la télé ou à la radio, parce que c'est vraiment, ou dans les journaux, c'est honteux, parce que j'ai vu tellement d'amis à moi, musiciens, mourir de ça. Bon, c'est affreux. Mais bon, en même temps, pour certains, faut savoir mourir à temps aussi, hein. Moi, je crois qu'il faut savoir mourir à temps. Il y a des gens, il ferait mieux de se barrer au bon moment, quoi.
Hein, parce que c'est vrai. Même, regardez, par exemple, quand je pense à Claude François, moi je l'aimais beaucoup ce type-là, même s'il était infernal à vivre, mais j'aimais bien ce type-là parce que son parcours était formidable. Comme celui de Sylvie Vartan, comme celui de, même de Sheila, c'est des mots qui partent de rien. Eddie Mitchell, c'est des prolos au départ. Bon, donc il en faut du courage et de la détermination. Et ben, Claude François, moi, il me touchait parce que, il voulait la terre entière, il voulait être le plus grand, le plus beau, le plus riche. Mais souvent, je me dis, heureusement pour lui qu'il est mort. Non, ouais. Vous voyez, Claude François...
Comment aurait-il évolué, oui.
Mais il serait très très malheureux. Il serait affreusement malheureux aujourd'hui. Quoi, il dirigerait une chaîne de télé-réalité, parce qu'il était obsédé à l'idée d'être un homme d'affaires. Il chanterait plus, enfin, ce serait affreux. Non, non, il faut savoir mourir à temps. Je me dis ça tous les matins, d'ailleurs.
Et aujourd'hui, alors donc, bon, ce regard que vous portez sur les personnes que vous avez croisées dans cette période-là, qui était une période assez folle, hein, au niveau
oui,
de...
Oui, ça valsait. C'est-à-dire qu'il y avait quand même toutes les semaines un disque extraordinaire qui sortait. Et puis, bon, ma chance, moi, c'est que je pouvais les appeler direct. Je veux dire, j'appelais McCartney, je lui disais, suis-vous la semaine prochaine, il faut que je fasse 8 pages. Mm-hmm. Ah, ben, t'as qu'à venir, on se baladait dans le parc avec sa Rolls, et puis voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Aujourd'hui...
Oui, pour approcher déjà des vedettes ou des stars, on n'est plus du tout dans le même contexte.
C'est-à-dire, le problème, c'est qu'à l'époque, ils n'avaient pas de problème d'image, puisqu'ils ne savaient pas qu'ils avaient une image. Alors qu'aujourd'hui, les mecs sont obsédés. Et puis autour, il y a plein de mecs qui sont là, des conseillers en communication, des managers, tout ça. Tout le monde donne des conseils et tout le monde a la trouille. Alors que la photographie dont on parlait tout à l'heure avec les 46 chanteurs... Ça nous a pris 3 semaines pour les réunir, pour être sûr qu'ils soient tous là. Puis c'est tout. Ça a pris un quart d'heure, on a bu un coup, on s'est barré. Aujourd'hui, à Paris Match, ils m'avaient demandé de faire la même en 2004 avec tous les chanteurs d'aujourd'hui. Ça leur a pris 7 mois pour réunir.
Il y avait peut-être des contrôles, justement, des personnes.
Monstrueux. Mais il y en a qui sont pas venus. Parce que l'entourage a dit non, c'est pas bon pour ton image. Donc c'est la fête est finie de ce côté-là, hein. La fête est finie. Et le métier de photographe, comme je l'ai connu, est fini aussi. C'est autre chose.
On est rentré dans une autre époque. On va écouter...
Belle conclusion.
on va écouter maintenant quelques questions qui nous ont été présentées par les internautes et les auditeurs de la radio CFM. On écoute la première question qui nous est posée par Isabelle.
Bonjour, je m'appelle Isabelle, j'habite Villefranche. J'aimerais savoir si après photographier des stars, vous aimeriez photographier des paysages. Aveyronné, bien sûr.
Pas du tout. Il n'y a que les gens qui m'intéressent, moi.
D'accord.
Faire des paysages, non, ça ne m'aimerait pas. Et puis, il faut être un vrai photographe. Moi, je ne suis pas un vrai photographe. J'ai été là par hasard. Et ce qui m'a intéressé dans la photographie, c'est de pouvoir rencontrer des gens. Et dans tous les métiers que j'ai faits, que ce soit le cinéma, la publicité ou le métier de gens qui écrivent, parce que je ne suis pas écrivain, je publie. Hein, bon, je suis dans l'édition, disons. Mais c'est de rencontrer des gens. La chance dans la vie, c'est les gens qu'on rencontre.
Et puis, si vous avez photographié des paysages dans les années 60, vous n'auriez pas eu la carrière que vous connaissez.
Ça, c'est sûr.
Même si vous ne parlez pas de carrière.
Si j'ai fait que des pots de fleurs, à mon avis, on ne s'intéresserait pas à mon immense talent.
Une deuxième question qui nous est posée par Benoît.
Bonjour, je m'appelle Benoît et j'habite à Figeac. Ma question que j'aimerais poser serait celle-là. Monsieur Perrier, j'aimerais savoir quelle personne vous n'avez pas photographiée et que vous aimeriez maintenant photographier ou que regrettez de ne pas avoir fait de portrait.
Des regrets ?
Oui, j'ai 2 regrets. J'ai d'abord Frank Sinatra qui était mon dieu absolu et Elvis Presley. J'ai failli le faire, mais son manager a finalement pas voulu. Mais aujourd'hui, la seule que j'aimerais photographier, c'est le seul type dans la politique qui me touche, c'est Daniel Cohn-Bendit. Voilà. Ce type-là, je le trouve génial. Je le trouvais déjà génial en 68, alors que moi, franchement, mes 68, j'en avais rien à secouer. Mais lui, formidable, et il est encore aujourd'hui. Et lui, j'aimerais bien le photographier ou le rencontrer, en tout cas.
L'appel est lancé. 3e question, qui nous est posée par Alexis.
Bonjour, je m'appelle Alexis, j'habite à Limogne-en-Quercy et je voudrais savoir quelle est la plus belle des femmes que vous ayez jamais rencontrées.
Il fallait choisir qu'une.
Ma mère.
Jacqueline Porel, oui, effectivement, très belle femme.
Limogne, très très bon marché le dimanche. Hein.
Donc, votre mère, la réponse a été apportée.
Ma sœur, pas mal non plus quand même. Malheureusement, Sardou me l'a piqué.
Elle ressemble à sa mère. On écoute maintenant une nouvelle question posée par Elor.
Bonjour, je m'appelle Elor, j'habite à Villefranche. parmi toutes les photos que vous avez prises, quelle est votre préférée, simplement, voilà.
Mais j'en ai pas de préférée, bien sûr. Chaque photo est un souvenir, chaque photo a une histoire. Et on m'a souvent posé cette question, mais j'en sais absolument rien. Non, je peux pas le dire. Vraiment, je pourrais pas d'abord, parce que ça vexerait un nombre incalculable de gens. J'ai des souvenirs tellement extraordinaires.
Justement, quel souvenir pourrait être attaché à une photo, même si c'est pas celle que vous préférez sur le plan artistique ou sur le long, il y a pas de...
Non, mais attends, il faut 1h30. J'ai fait un spectacle sur scène pour ça, il faut 1h40 exactement pour raconter. Non, je n'ai pas de préférence particulière pour une photo. Franchement, non.
Bon, mais la réponse est donnée. Une question de Cédric maintenant.
Je m'appelle Cédric et je voulais savoir ce qui vous a plu dans le fait d'être le photographe d'une star comme Johnny.
Ah, mais Jojo, oui, je l'aimais beaucoup, lui, parce que d'abord, c'est quand même par lui que tout a commencé. Hein. Je me souviendrai toujours que dans les années 50, quand il a commencé, là, il faisait la première partie de Raymond DeVos. Hein.
De l'humoriste
à l'Alhambra. Il faisait la première partie, c'était en 58, je crois. Il y avait tout Paris dans la salle et tout Paris s'est foutu de sa gueule en disant « Virez-moi ce mot, mais il est ridicule ». Et ça, c'est très important de le dire parce que Jojo m'en a souvent parlé. Il a toute sa vie, il s'en est souvenu. Parce qu'après le spectacle, devant le tollé, le patron de l'Alhambra de l'époque est venu voir
Raymond
DeVos en lui disant « Bon, on va pas pouvoir garder le petit ». Et l'autre a dit « Si vous virez le petit, je m'en vais ». Ouais. Bah ça, il y en a pas beaucoup. Il y a que Charles Aznavour et DeVos qui a compris Jojo quand il a démarré.
Comme quoi, il faut des fois persévérer dans son art pour être compris.
Non, mais c'était le meilleur, c'était le plus formidable, puis drôle en plus et intelligent. Ils ont rien compris, ils l'ont traité de con pendant 30 ans cette bande d'imbéciles.
Une nouvelle question posée par Jeff.
Bonjour, je m'appelle Jeff et j'ai une petite question. Je voudrais savoir, et les photos au téléphone, c'est pas mieux?
Eh bien, je pense que ça va l'être. C'est-à-dire que je crois que toute nouvelle technologie invente des artistes. Alors évidemment, la photo telle que je la faisais ou que n'existe plus, n'existera plus. Mais à chaque fois qu'il y a une nouvelle technique qui arrive, ça invente des gens. Je veux dire, Steve Jobs, il a inventé des millions d'artistes avec Apple. Donc, je crois effectivement que le téléphone portable va permettre de faire des photos extraordinaires. Et d'ailleurs, il y a actuellement à Los Angeles un festival de longs métrages fait avec des portables.
Et puis, il y a le portable, justement, aussi, cette supériorité sur l'appareil photo, on va dire, classique. C'est qu'on l'embarque tout. On l'a toujours sur soi.
Oui, non, c'est formidable. Voilà, la prochaine étape, c'est de l'avoir dans l'œil. Hein.
Ouais, on fera juste un déclencheur.
Non,
ouais.
Ce que je déteste, par contre, avec le portable, c'est les selfies. Parce qu'on a vraiment l'air de turbo à l'étalage avec cet objectif-là. C'est épouvantable.
C'est vrai que ça a plus de... On a l'impression, effectivement, d'être un petit peu gonflé par le grand angle.
Non, le danger de ça, le danger de ces machines-là, c'est qu'il ne faut pas oublier de vivre les moments. Il ne faut pas faire des photos tout le temps. Il faut vivre les moments, parce que c'est comme le père qui a son gosse qui fait un château de sable et qui le filme. Il ferait mieux de faire le château avec le gosse.
Et alors aujourd'hui, justement, alors je rebondis un petit peu sur...
s'éloigne.
Mais ce tourisme-là autour de, justement, aller faire des photos là, sur les lieux où des Instagrammeurs ont fait des photographies un peu célèbres, c'est justement l'antithèse de vivre le moment et d'aller...
Je vois pas du tout de quoi vous parlez, alors, mon ami.
Ben, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a carrément des tours opérateurs qui proposent de faire des espèces de voyages destinés à se prendre en selfie.
Ah
là,
oui,
des
trucs. Oui.
Alors là, bon, on est loin.
C'est sinistre. Mais enfin, c'est le drame du tourisme. Je veux dire, pour vraiment connaître un pays étranger, il faut y travailler. Moi, je sais que grâce au cinéma et grâce aux films publicitaires, j'ai pu passer des mois dans un pays pour travailler. Là, on connaît, mais quand on y va juste...
Pour se faire prendre en photo devant.
Non.
Une dernière question qui est posée par Philippe.
Bonjour, je m'appelle Philippe Chiloff et j'aurais aimé poser une question à Jean-Marie Perrier. Pour savoir s'il regrette d'avoir pris des photos dans l'intimité des stars.
Ah ben non, je vais prendre les photos dans l'intimité des stars plutôt qu'être obligé d'être à les attendre comme les paparazzi. Ouais. Encore, j'ai aucun mépris pour les paparazzi, parce qu'en fait, c'est simplement des gens qui n'ont pas eu comme moi la chance d'avoir le rendez-vous. Hein, les paparazzi, il faut bien qu'ils vivent, ils ont des familles. Enfin, à part 2-3 enfoirés, moi j'en connais plein des paparazzi, comment ils peuvent faire puisqu'on ne les reçoit pas. Moi, j'ai toute ma vie, j'ai eu la chance d'avoir le rendez-vous.
C'est une très grande chance. Hein. Ça aide beaucoup, avoir du talent. C'est beaucoup plus facile d'avoir du talent quand on a le rendez-vous.
J'allais oublier une dernière question qui nous est posée par Philippe Lavergne, qui nous a été soumise par Internet. Quelle est la personnalité qui vous a le plus marqué parmi toutes celles que vous avez rencontrées?
La personnalité qui m'a le plus marqué parmi celles que j'ai rencontrées? Bah, tu vois, Mademoiselle, par exemple, je la trouve extrêmement marquante, là, maintenant, tout de suite. Elle n'a pas dit un mot, je sais qu'elle n'en pense pas moins. Non, mais ça ne veut rien dire, j'en sais rien. Là, je j'ai pas ça en tête, je ne sais pas, ça dépend des moments. Ça peut aussi bien être Françoise Hardy que ma concierge, je ne sais pas. Les gens, c'est sur l'instant qu'ils sont intéressants. Je ne sais pas qui... Non, ça, j'ai aucune idée de ça. Pardon, la question est... Bon, d'abord, on me l'a souvent posée, et j'ai... Je ne peux pas faire semblant d'avoir la réponse, que je trouve ça lamentable. Plein de gens font semblant d'avoir la réponse. Oui, c'était le jour où j'ai... Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. J'en sais rien. C'est peut-être demain le truc.
Bon, vivons donc dans l'instant. En tout cas, merci de nous avoir consacré ces instants précieux, Jean-Marie.
Je vous en prie, Baron.
Il est désormais temps de nous séparer. Donc, nous retrouverons le mois prochain avec un nouvel invité pour un nouvel opus.
Ah bon, qui
Et on vous laissera le découvrir lors de notre prochaine bande annonce. On va faire un petit teaser là-dessus. Et nous vous remercions pour votre participation à cette émission, et il ne nous reste qu'à nous séparer avec un morceau que vous nous avez suggéré.
Ah,
il
oui.
s'agit du morceau des Star des Rolling Stones. Pourquoi ce choix, Jean-Marie?
En fait, ça voulait dire, la vérité, c'est que le titre, c'était Starfucker. Et donc, ils ont été interdits à la radio à Londres, parce que ça voulait dire baiser de star, donc ils ont appelé ça Star. Et je trouve que c'est un titre absolument formidable.
Ben, on écoute les Stones.